C'est maintenant qu'il faut en terminer avec le bilan des réformes passées et puis de ce qui est projeté pour maintenant proposer une contre-argumentation. On nous dit qu'il n'y a qu'une solution, travailler plus longtemps, soit en reculant l'âge de la retraite, soit en augmentant la durée de cotisation, soit en faisant les deux à la fois. Bon, ça c'est faux et archi-faux. Pour équilibrer un système de retraite, quel qu'il soit d'ailleurs, par répartition comme l'actuel, par répartition par points ou par compte notionnel ou par capitalisation, les fonds de pension font exactement le même calcul. Il y a trois leviers possibles, il y a trois paramètres sur lesquels on peut jouer. Bon, là, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion du salaire que vous retrouvez sous forme de pension. On peut jouer sur la baisse du niveau des pensions, ou ça en augmentation, bien sûr, mais là, vous vous rendez compte, c'est plutôt vers la baisse que ça pourrait s'organiser. On peut jouer là-dessus, sur les cotisations, ou bien sur le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités sur lequel va jouer la durée de cotisation. Et pour l'instant, seul ce troisième levier, le rapport du nombre de cotisants sur le nombre de retraités, est sollicité. Et bien sûr, en nous disant, ah mais on ne touchera pas au niveau des pensions. Non, 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 il n'est pas question de baisser le niveau des pensions. Ben forcément, parce qu'ils n'ont pas à le faire, puisque automatiquement, la modification du rapport cotisant sur retraité, en faisant bouger la durée de cotisation ou en reculant l'âge de la retraite, automatiquement, c'est arithmétique, automatiquement, ça a une influence sur le niveau des pensions. Si vous ne pouvez pas satisfaire aux 40 ans, aux 40 ans et demi, aux 41, puis, etc., aux 42 ans qui sont exigés, eh bien, vous aurez un niveau de pension qui diminuera. Donc, ils peuvent promettre la lune en matière de niveau des pensions, ça baissera quasi automatiquement. Et par contre, le silence complet est fait sur la variable montant des cotisations. Ça, on vous dit que ce n'est pas possible, qu'on ne peut jouer que sur la durée du travail. Et pourquoi ce tabou? Eh bien, pour la simple raison que si on raisonnait en termes de taux de cotisation, de montant des cotisations, ça obligerait à poser la question des retraites en termes de répartition de la richesse produite. Et c'est là que se situe le cœur de notre argumentation, le fil conducteur de notre raisonnement. Il y a une évolution démographique, soit, nous en prenons acte et nous nous en félicitons que les vieux vivent plus vieux. Eh bien, comparons cette évolution avec ce que produisent les actifs. Et si ce que produisent les actifs est suffisant à ce moment-là, il faut le partager différemment. Et pourquoi posons-nous le partage, pourquoi posons-nous le problème du partage différent de la richesse produite? Eh bien, parce que vous savez que la caractéristique majeure de cette époque qu'on a appelée capitalisme néolibéral, qui dure maintenant depuis quasiment 30 ans ou plus, c'est d'avoir organisé un détournement de fonds gigantesque de la poche des salariés vers la poche des actionnaires, vers du travail, vers le capital. Alors, je ne peux pas vous montrer le montage dont je me sers habituellement, puisqu'il n'y a pas d'appareil, mais je vais quand même vous montrer, parce que vous allez le voir très facilement. Ça, vous voyez, donc je m'approche de vous, hein. Ça, c'est un graphique qui a été fait par Attal, c'est un graphique qui a été fait par le Fonds monétaire international dans son rapport de 2016. Donc, vous voyez, ah, pardon, je me suis. Voilà, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Je n'ai même pas vu. Voilà, c'est là celui-là. Voilà, si on peut le remontrer. Ça, c'est le graphique du Fonds monétaire international. Donc, vous voyez la tendance, hein, quels que soient les pays. La part des revenus du travail diminue. Et elle diminue dans une proportion gigantesque. Elle diminue en moyenne, selon les pays, entre 6, 8 ou 10 points de pourcentage de produit intérieur brut, c'est-à-dire cette richesse monétaire que l'on produit annuellement et qui est ensuite distribuée sous forme de revenus monétaires, en salaire, en profit ou en transferts sociaux comme les retraites. 10 points, 8 à 10 points de pourcentage du produit intérieur brut dans les pays à cause de la déconnexion des salaires par rapport à l'évolution de la productivité du travail. Décision majeure qui a été prise au début de cette époque néolibérale. En France, ça a été dès 1982-83. Dans certains autres pays, c'était un tout petit peu avant. Madame Thatcher, c'est 79-80 en Angleterre. Reagan, c'est la même époque aux États-Unis, etc., etc. Donc, ils ont pris la décision de déconnecter l'évolution des salaires de la productivité du travail et de la déconnecter dans le sens, bien sûr, défavorable au salariat. Et donc, un détournement de fond extrêmement important dans cette période-là. Et alors, ce que je vous avais montré par avance, on m'en apercevoir, c'est la situation française où l'on voit effectivement que, il y a deux cours parce que selon le champ des entreprises que l'on retient, le champ plus ou moins large, on a des courbes différentes, mais la tendance est strictement la même. Donc vous avez entre les années d'après-guerre une tendance à une stabilité de la part salariale entre 68 et 70% du PIB. Vous voyez ici, un petit pic consécutif aux années 70, que je vous expliquerai tout à l'heure si vous le souhaitez, et puis une chute vertigineuse de 8 points, en France c'est 8, un peu plus de 8 points de pourcent entre 82 et 90. Et depuis c'est à peu près stable, mais à un niveau historiquement extrêmement bas par rapport à toutes les époques antérieures, que ce soit la période stricte d'après-guerre, les fameuses 30 glorieuses, ou la période des années 70. Et je vous disais tout à l'heure que si la question de l'utilisation du paramètre montant des cotisations n'était pas retenue, c'était parce que cela obligerait à poser le problème en termes de répartition de la richesse produite. Et donc c'est ça le cœur de notre argumentation. Il y a eu un détournement de fonds vers les actionnaires d'une ampleur considérable et qui dépasse et de loin les besoins supplémentaires que nous devons mobiliser pour pouvoir payer des retraites à une partie de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va devenir plus nombreuse. Ce qui fait que la proposition centrale que nous faisons pour contrer la propagande gouvernementale et patronale, c'est de soumettre à cotisation les revenus qui ne sont pas pour l'instant soumis à cotisation, essentiellement ce qu'on appelle les profits financiers distribués, dont la plus grande part est constituée par les dividendes qui sont versés par les entreprises aux actionnaires chaque année, et le décrochage de la part salariale par rapport à la richesse produite est inversement proportionnel à l'agrandissement de la part des actionnaires. Puisque en 1973, c'est-à-dire à la fin de cette période dite des 30 glorieuses, c'est-à-dire avant que se produise le petit pic que vous avez vu dans la courbe de la part salariale, en 73, les sociétés qu'on appelle non financières, c'est-à-dire le cœur des entreprises productives en France, versaient à peu près un peu plus de 3% de leur valeur ajoutée sous forme de revenus financiers. Aujourd'hui, cette part des revenus financiers dans leur valeur ajoutée est passée à 8%. Donc un décalage quasiment de 5 points de pourcentage. Et qu'est-ce que ça représente, 5 points? Eh bien, c'est plus que n'est estimé le besoin de financement supplémentaire des retraites par le Conseil d'orientation des retraites qui a rendu son dernier rapport il y a 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le Conseil d'orientation des retraites? Il nous dit qu'à l'heure actuelle, il y a eu une aggravation des déficits. Mais il précise en toutes lettres que cette aggravation des déficits n'est absolument pas due au choc démographique, mais est due à la crise. Autrement dit, ce qui se passe en Grèce, c'est aussi ce qui se passe en France. C'est-à-dire que l'aggravation des déficits des comptes sociaux est due à la crise financière quasiment exclusivement. Le déficit qui est prévu pour le Caisse nationale d'assurance vieillesse en 2010, c'est 10 milliards d'euros. Et si on ajoute tous les régimes, c'est 30 milliards. Et vous savez combien les entreprises du CAC 40 ont distribué de dividendes en 2009? Rien que les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire 40 entreprises simplement. 35 milliards. c'est-à-dire plus que le déficit de tous les régimes de retraite cumulés pour l'année 2010 qui est prévu. Donc voilà, c'est là le cœur de notre argumentation. Il y a possibilité de faire, de cotiser donc tous ces revenus financiers qui ne sont pas soumis à cotisation. Alors bien sûr, on nous rétorque aussitôt, ah mais la compétitivité, ah mais... Mais argument faux. Parce que si vous soumettez les dividendes, par exemple, à cotisation, qu'est-ce qui va se passer? La même chose que par rapport au salaire. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre salaire brut et salaire net. Donc, si vous augmentiez la cotisation salariale, ça ne ferait pas un centime de plus sous forme de coût de production, de coût salarial pour les entreprises. Et là, c'est pareil. Si vous soumettez à cotisation les dividendes qui sont distribués, vous allez diminuer ce qu'on pourrait appeler par analogie avec le salaire net, le dividende net. Mais ça ne bouge en rien le coût de production global des entreprises. Donc, c'est de la pure propagande. Donc ça ne tient pas deux secondes la route. Alors donc, je vous disais que le Conseil d'orientation des retraites avait estimé dans le rapport d'avril 2010, qu'il a remis il y a une quinzaine de jours, à 1,7 point de PIB, 1,7% si vous voulez, 1,7% le besoin actuel pour équilibrer nos systèmes de retraite. Les 30 milliards de déficit, ça représente 1,7% du PIB. Qu'est-ce que c'est que 1,7% par rapport aux 5 points de détournement vers les dividendes qui ont été effectués depuis une trentaine d'années? Et 5 points chaque année. Hein, c'est chaque année, il y a 5 points comme ça qui se passent, qui sont passés de la poche de la masse salariale vers la poche des actionnaires. Donc 1,7%. Donc c'est absolument... gérable par l'économie à condition qu'on ait un rapport de force, bien sûr, pour pouvoir le faire décider démocratiquement et l'imposer aux couches sociales qui bénéficient des dividendes, évidemment. Et en 2050, puisque le rapport du Conseil d'orientation des retraites fait une projection pour 2050. Alors, pour 2050, comme on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là, et surtout, on ne sait pas ce qui va se passer en termes de production. Est-ce que la production va continuer d'augmenter? Est-ce que notre richesse produite va continuer d'augmenter? On n'en sait fichtre rien. Bon. Alors, le Conseil d'orientation des retraites bâtit plusieurs scénarios. Un scénario qu'il appelle optimiste, et un scénario moyen, intermédiaire, et un scénario pessimiste. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Pour le corps, c'est un taux de croissance de 1,8% par an, en moyenne, pendant 40 ans, et un taux de chômage à 4,5% simplement. Et le scénario pessimiste, c'est celui où on n'a que 1,5% de croissance et 7 ou 8% de chômage. 7%, c'est ce qu'ils adoptent, 7%. Si on se cadre dans cette fourchette-là, le déficit donc à combler en 2050 représentera soit 1,7 point, c'est-à-dire comme maintenant, c'est-à-dire maintien de la situation actuelle, et 3 points de PIB, 3% de PIB. Même dans ce scénario le plus défavorable, les 3% nécessaires pour équilibrer les comptes des retraites sont inférieurs au détournement de fonds des salariés vers les actionnaires. C'est toujours inférieur à ce déplacement de richesse qui a eu lieu depuis une trentaine d'années. Bon. Voilà ce que dit le corps. Et si on lit attentivement ce rapport, il n'a pas une tonalité aussi pessimiste, aussi catastrophiste que la traduction qui en a été faite par le gouvernement, par le patronat et bien sûr derrière par la plupart des médias.